Donc bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous. Je m'appelle Alain Wittmann, et donc je suis un des membres de l'église protestante évangélique de Brignoux. Et donc nous faisons ensemble cette série sur le prophète Élie. Et tout d'abord, pour commencer ce message, j'aimerais vous lire un petit article que j'ai trouvé dans The Babylon Bee, un journal chrétien en anglais, disponible sur Internet et que j'ai traduit. Et donc, j'aimerais le partager en introduction de ce message ce matin. Ashland, Oregon. Christopher Bardo, un habitant de la région, a été instantanément et miraculeusement guéri de sa grave dépression après qu'un ami lui a montré un verset de la Bible indiquant que l'anxiété était un péché. Bardo avait demandé à son ami de le rencontrer pour discuter de son combat permanent contre la dépression et l'anxiété. Cet ami l'a rencontré dans un parc le lundi matin. « J'ai vraiment besoin d'aide », a déclaré Bardo. « Parfois, je n'ai même pas envie de sortir du lit le matin. C'est un problème sérieux. Je fais confiance à Dieu pour tout ce qui me concerne, mais j'ai aussi besoin de soins médicaux, je pense. » Pas si vite, a objecté son ami. Ne vous inquiétez de rien, a-t-il lu à haute voix dans sa Bible. Tu vois, c'est juste là. Alors, je pense que nous en avons terminé. La dépression de cet homme a été instantanément guérie après que son ami a lu le verset biblique sur un ton condescendant. « C'est un miracle », a-t-il dit. « Le déséquilibre chimique dans mon cerveau a été réparé et je n'ai plus à m'inquiéter de rien grâce à cet ami qui m'a lu un seul verset biblique. » Il n'a même pas pris la peine d'essayer d'avoir de l'empathie pour moi ou d'aller à la racine de mon trouble de l'humeur, a-t-il dit, secouant la tête presque incrédule. Il a juste lu un verset de la Bible et c'est parti. Incroyable. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que The Babylon Bee soit un journal sérieux?
Non,
bravo, vous me rassurez. Vous avez raison, c'est un journal satirique qui se moque gentiment de certains travers des chrétiens évangéliques. Ici, il s'agit de la propension que certains ont à croire qu'il suffit de lire un ou des versets bibliques pour venir en aide efficacement à nos amis qui souffrent de déprime ou de dépression. Alors pourquoi je vous ai lu cette parodie d'article? C'est parce que dans l'épisode que nous méditerons ce matin, eh bien, nous allons rencontrer notre héros de la série, le prophète Élie, dans une situation de profond découragement, de burn-out, de quasi-dépression. Et nous verrons comment Dieu répond à cette situation. À partir de ce texte, nous relèverons quelques conseils pour mieux accompagner nos amis qui passent par de tels moments. Mais avant de lire le texte d'aujourd'hui, rappelons-nous les épisodes précédents. Alors, Élie appelle le prophète Élie à annoncer à Akab, le roi d'Israël, donc le royaume du Nord, qu'il va envoyer une sécheresse et que celle-ci durera jusqu'à ce que Élie soit autorisé à prier pour le retour de la pluie. Et pendant la sécheresse, bien sûr, Akab est furieux et Dieu conduit Élie à se cacher et pourvoit miraculeusement à ses besoins. Mais au cours de la troisième année de sécheresse, il l'envoie vers Akab pour lui annoncer la fin de la sécheresse et pour savoir qui est le seul vrai Dieu. Eh bien, Élie va proposer une confrontation au sommet du mont Carmel entre lui, le dernier, croit-il, prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal et d'Achéra. Chaque groupe construira un autel à son dieu, et le dieu qui allumera le feu sous l'offrande sera le vrai dieu, que le peuple d'Israël devra suivre. Les prophètes de Baal n'obtiennent rien, mais Dieu envoie le feu du ciel sur l'offrande dressée par Élie. Elle consume le bois et l'offrande. Et alors le peuple reconnaît que l'Éternel est vraiment Dieu. Et alors Élie ordonne au peuple de mettre à mort tous les prophètes de Baal et d'Achéra. Et ensuite, il annonce la venue de la pluie à Akab. Il prie Dieu, que Dieu envoie la pluie. Et alors, on voit apparaître les signes avant-coureurs de la pluie. Et puis, assez rapidement, eh bien, c'est un orage terrible qui s'abat sur la région et une pluie torrentielle. Et Élie, alors, court devant le char d'Akab du Mont Carmel jusqu'à Jizréel, soit 27 kilomètres. Et voilà où nous en sommes dans notre récit de ce matin. Donc je vous invite à lire le texte dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 9. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, « je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes !» Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel adressa à Élie la parole en ces termes « Que fais-tu ici, Élie ?» Donc ça, c'est déjà un peu anti-piété sur le passage de la semaine prochaine. Alors, rappelons rapidement qui sont Akab et Jézabel. Alors, voilà comment le livre des rois nous présente Akab. La 38e année du règne d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans, c'est-à-dire de 874 à 853 avant Jésus-Christ. Akab, fils d'Omri, fils que l'Éternel considère comme mal, et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter, les méfaits, on va dire, de Jéroboam, fils de Nébat, il alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Donc ça, c'est au chapitre 16. Jézabel, c'est guère mieux. C'est la femme d'Akab, c'est la fille de Ethbaal, le roi des Sidoniens. Elle avait introduit ou même développé en Israël le culte de Baal et d'Achéra. Et elle entretenait à la cour, aux frais de la cour, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Et elle avait même tenté d'exterminer les prophètes de l'Éternel. Et nous voyons donc dans ce passage, juste avant, eh bien, Jézabel vient de subir un terrible affront personnel. Et maintenant, elle est décidée à contre-attaquer. Et elle envoie un message à Élie qui menace de le faire mettre à mort dans les 24 heures. Alors, comment réagit Élie ? Le verset 3 nous dit « Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie ». Alors, comment expliquer cette peur d'Élie ? Est-ce qu'il n'a pas connu déjà des situations dangereuses auparavant ? Il semble que pendant la sécheresse, Akab aussi avait cherché Élie pour le faire mourir. On voit au chapitre 18 que Abdias, qui a été l'émissaire d'Élie auprès d'Akab, eh bien, il semblait convaincu que l'Esprit de Dieu pouvait déplacer Élie pour le transporter instantanément loin de ses poursuivants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Élie avait toujours échappé à Akab. L'effondrement moral de Élie dans une telle situation semble difficile à comprendre. Il a l'expérience de la protection que Dieu lui a accordée jusqu'à présent. Il vient de vivre une immense victoire sur le mont Carmel et le peuple est probablement plus favorable à l'Éternel aujourd'hui que ce qui ne l'a jamais été dans un passé récent. Et les prophètes de Baal et d'Achéra, bah, ils sont morts. Donc, logiquement, Élie ne devrait pas plus craindre Jézabel aujourd'hui que ce qu'il avait craint Akab dans le passé. Mais nos émotions ne sont pas toujours en accord avec la logique. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des personnes s'effondrer psychiquement après un événement heureux ou une grande victoire. Michael Phelps, qui est le nageur le plus titré de l'histoire, a raconté que après ses médailles, il s'est retrouvé seul, assis dans sa chambre, incapable de sortir du lit et se demandant s'il avait encore une raison de vivre. Et il disait « J'avais atteint le sommet et pourtant je me sentais vide. » Ce phénomène n'est pas réservé aux grands sportifs. Il touche des étudiants après un concours, des jeunes parents après une naissance, des travailleurs qui ont tellement travaillé pour réussir un projet, des pasteurs après une grande conférence ou des croyants après une retraite spirituelle extraordinaire. D'ailleurs, on peut se demander si l'épuisement physique et émotionnel d'Élie, toutes ces émotions au Mont Carmel ou ce marathon de 27 km, entre le mont Carmel et Jizréel, sous une pluie battante. Mais on peut se demander si tout cela n'a pas été un des facteurs à l'origine de l'effondrement psychique du prophète. Ensuite, à l'origine de nos dépressions, il y a souvent de fausses pensées et un sentiment d'impuissance radicale. Et Élie semble susceptible de souffrir des deux à ce moment de sa vie. Il pensait avoir porté à l'idolâtrie un coup mortel. Et il réalise que la racine de cette idolâtrie en Israël, eh bien, c'est l'attachement du roi Akab, de la reine Jézabel aux idoles, et qu'elle est demeurée intacte, cette racine, et que tant qu'ils seront au pouvoir, eh bien, il est impuissant à ramener le peuple d'Israël au culte du vrai Dieu. Et en plus, il pense être le seul Israélite à être resté fidèle à l'Éternel. Eh bien, en conséquence de ces deux croyances, eh bien, il se sent totalement impuissant à ramener Israël à l'adoration de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et ça, c'était le sens de sa vie. Alors, nous verrons la semaine prochaine comment Dieu, au travers de sa rencontre avec Élie, va corriger cette vision erronée d'Élie, son sentiment d'impuissance, mais n'anticipons pas. Pour l'instant, Élie fuit. Élie fuit devant Jézabel. Alors, il entreprend un voyage de 200 km environ de Jizréel à Beersheba. La porte du désert de Negev. À Beersheba, il a probablement l'intention, enfin, dans le désert de Negev, il a probablement l'intention de se cacher. Et à Beersheba, dans le territoire de Juda, eh bien, il laisse son jeune serviteur parce qu'il anticipe que cette histoire est probablement extrêmement dangereuse pour lui. Et après, il s'enfonce une journée vers le sud, dans le désert, et nous le retrouvons assis sous un genêt, épuisé, en burn-out, au bord de la dépression. Alors, le découragement d'Élie, comment est-ce qu'il se manifeste ? C'en est trop, dit Élie, c'en est trop. Élie a su faire face, dans le passé, à de nombreuses situations difficiles, avec l'aide de Dieu. Mais cette fois-ci, il se sent incapable, accablé, impuissant face à cette menace de mort. Ce sentiment d'impuissance, d'incapacité à faire face, lorsque il s'installe durablement chez une personne, eh bien, c'est l'un des symptômes de la dépression. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Cette déclaration d'Élie nous paraît étrange. N'est-il pas, au contraire, l'un des personnages les plus fidèles à Dieu et des plus glorieux de l'Ancien Testament ? N'est-il pas celui que Dieu a choisi avec Moïse pour discuter avec Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu fait homme, dans la scène de la transfiguration ? Mais Élie, à ce point de sa vie, ne voit probablement que son échec à ramener Israël à l'adoration de l'Éternel tant que Akab et Jézabel sont au pouvoir et qu'ils continueront à promouvoir le culte des idoles en Israël. Cette culpabilité excessive, déconnectée de la réalité, ce sentiment d'avoir perdu toute valeur, d'être nul, c'est aussi un des symptômes de la dépression. Enfin, il souhaite la mort et demande à Dieu de lui prendre la vie. La mort paraît la seule issue à cette situation, la seule façon d'échapper à cette terrible souffrance psychique. Dans sa crainte de Dieu, Élie ne semble pas envisager de sauter lui-même la vie, mais vous le savez, certains dépressifs luttent quotidiennement avec des idées de suicide. Alors, comment Dieu intervient-il en faveur d'Élie à ce moment crucial de sa vie ? Ben, voyons déjà ce que Dieu ne fait pas. Il ne lui fait pas de reproches. Il ne lui cite pas un verset lui montrant qu'il est dans l'erreur. Il ne raisonne pas avec lui. Non. Dieu prend d'abord soin de ses besoins physiques, eau, nourriture, repos. Il lui manifeste de façon concrète et pratique son amour et son attention. Il lui parle avec douceur et bienveillance au travers d'un ange. Il met en place tout ce dont Élie a besoin en vue de réaliser son désir d'avoir un tête-à-tête avec Dieu. Là où la foi d'Israël a pris un tel tournant, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Horeb. C'est là le projet d'Élie et Dieu va tout faire pour qu'il puisse y arriver. Au terme de ce passage, nous voyons Dieu engager un dialogue avec Élie, prêt à écouter l'expression de sa crainte et sa douleur avec compassion, lui apporter une vision renouvelée de qui il est et de sa mission qu'il lui confie. Voilà un petit peu pour l'analyse de ce texte. Voyons quelques applications que nous pouvons en tirer. Tout d'abord, il nous faut tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues, de préjugés tenaces parmi les chrétiens. La dépression provient d'un manque de volonté. Celui qui ne s'en sort pas est paresseux ou ne veut pas s'en sortir. Non. Non, la dépression est une maladie. Et le manque de volonté est la plupart du temps une conséquence de l'épuisement nerveux et hormonal. Les symptômes de la dépression sont si pénibles que l'on cherche avant tout à en sortir. Et donc dire que quelqu'un ne veut pas en sortir, ça n'a pas de sens. La dépression est un manque de foi en la puissance de Dieu. Dans un certain sens, oui. Mais les épreuves de la vie surviennent parfois avec une telle intensité qu'on n'est pas en mesure d'y faire face. On parle alors de dépression réactionnelle. La foi joue bien sûr un rôle dans la guérison, mais on peut devenir dépressif en vivant une vie chrétienne « normale », entre guillemets, selon la lumière que l'on a reçue. Enfin, troisième préjugé, la dépression est le signe d'un péché. Alors là encore, non, il n'y a pas nécessairement de faute à l'origine du dépression. Il peut y avoir un manque de sagesse pratique pour conduire sa vie. Par exemple, une incapacité à voir ses limites physique et nerveuse à ne pas dépasser, mais pas nécessairement, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de péché, mais pas nécessairement un péché. Bien que, bien sûr, une vie menée dans l'ignorance des recommandations que Dieu donne dans la Bible peut fortement contribuer à tomber dans la dépression. Alors, essayons de voir comment ce texte nous donne des pistes pour aider nos frères et sœurs qui souffrent de découragement, de burn-out ou de dépression. Premier point, je crois que c'est important de distinguer la gravité des symptômes que nous observons, la durée de temps depuis laquelle ils sont installés, afin de savoir discerner ce qu'il s'agit d'une simple phase de découragement, de déprime, ou alors une véritable maladie dépressive. Alors, je ne vais pas rentrer dans une description clinique précise de la dépression, mais juste donner quelques signes qui peuvent nous alerter sur un état dépressif probable. Voilà. Une personne déprimée et en général désespérée, ne s'intéresse à rien. Elle se sent coupable et sans valeur. Elle a souvent subi un échec récent, elle est incapable de gérer le stress, parfois obnubilée par les maladies, insomniaque ou de graves troubles du sommeil, désorientée, méfiant, tendance à être à la fois dépendant et en même temps insatisfait, parfois passer d'une profonde dépression à une jovialité excessive. Et souvent, le signe peut-être le plus grave et alertant, c'est une personne qui a réfléchi à la meilleure façon de se supprimer, qui parle de suicide, qui connaît bien les meilleures façons de se suicider et qui a peut-être déjà fait une tentative de suicide. Alors, autant nous pouvons accompagner un frère ou une sœur qui passe par une phase de découragement, autant il est en général, dans le cas d'une vraie dépression, autant il est nécessaire d'avoir recours à des soins médicaux et psychothérapeutiques auprès de spécialistes. Mais cela ne veut pas dire que les frères et sœurs n'ont pas un rôle complémentaire à jouer. Alors essayons de repérer les façons dont nous pouvons aider, en commençant par les plus simples. Tout d'abord, n'aggravons pas la situation. N'accablons pas la personne déprimée de reproches, de propos culpabilisateurs. Le dépressif se sent en général déjà bien coupable et il a du mal à distinguer entre vraie et fausse culpabilité. Ne l'accablons pas d'injonctions à se prendre en main, à faire ceci ou cela. Le dépressif se sent fondamentalement incapable de faire face même aux tâches les plus simples de la vie. Et ne l'accablons pas enfin d'une avalanche de versets qui lui montrent qu'il doit faire confiance à Dieu, qu'il est dans l'erreur. Bien sûr, le conseil biblique a sa place dans l'accompagnement, mais il doit se faire dans un second temps, quand une relation de confiance est établie, et commencer en douceur par la lecture de psaumes qui vont permettre à la personne dépressive d'exprimer toute sa douleur en écho avec la prière du psalmiste. Ensuite, peut-être dans un second temps, si nous sentons à même de le faire, eh bien, et si la personne dépressive exprime une demande de conseil spirituel, nous pouvons aller plus loin. On verra ensuite comment. Ce qui me frappe dans ce passage, c'est que l'action de Dieu commence par l'écoute. Dieu ne fait pas de reproche à Élie. Il écoute exprimer sa souffrance, il ne la nie pas, il ne la minimise pas. C'est ce que nous devrions commencer à faire avec nos amis dépressifs. Pour paraphraser Henri Nouwen, la compassion consiste à entrer dans la souffrance de l'autre plutôt que de la minimiser ou la juger. Ensuite, Dieu prend soin des besoins physique et matériel d'Élie pour reprendre des forces. Et c'est peut-être là un besoin essentiel dans lequel un chrétien aimant proche de la personne dépressive peut intervenir. Accompagnons-la pour retrouver un accès à une hygiène de vie normale et acceptons dans un premier temps de faire pour la personne ou avec elle ce qu'elle est incapable de faire seule. Alors, accès à une nourriture variée, équilibrée. On sait que l'épuisement des glandes surrénales, la déminéralisation sont souvent des facteurs physiologiques de la dépression. Le sommeil, c'est indispensable. Alors, encourageons-le à prendre un sommeil réparateur, protégeons son sommeil. L'activité physique modérée, proposons d'accompagner la personne déprimée pour une petite promenade adapté à ses capacités physiques du moment, le calme, le silence, la nature, encourageant la personne déprimée à se détendre, se ressourcer dans un cadre naturel apaisant et accompagnons-la. Ensuite, si nous nous sentons suffisamment formés pour cela, que nous avons une bonne relation de confiance et que nous avons su écouter sa souffrance, eh bien, nous pouvons commencer à repérer la vision de soi, la vision du monde, la vision de l'avenir exprimée par la personne déprimée et gentiment questionner cette façon de voir. Le déprimé a généralement une vision de soi très négative. Il ne se sent aucune valeur, il se sent incapable. Il a également une vision du monde très négative. Le monde, c'est une source d'obstacles permanents. Et il interprète tout comme une source d'échecs à venir. Et enfin, il voit l'avenir comme une continuation de ses échecs présents, une confirmation de sa souffrance. Il est dans la globalisation et il ne peut que continuer à échouer et se sentir frustré. Alors, nous pouvons aider la personne souffrant de dépression à identifier les modes de pensée automatiques négatifs, peut-être évaluer les probabilités des choses qu'il tient pour vraies, l'aider à rechercher des pensées alternatives, l'encourager à tester concrètement ses hypothèses par des petites expériences et renforcer tous les résultats positifs. Voilà un début de démarche d'accompagnement pour une personne déprimée qui nous semble broyée du noir et tout voir en négatif. Et je dirais la façon la plus importante pour nous en tant que chrétiens, c'est de rappeler que Jésus comprend. Tout d'abord, Jésus a connu l'épuisement physique. Dans les évangiles, on voit Jésus dormir dans une barque au milieu d'une tempête. Non pas parce qu'il est insouciant, mais parce qu'il est épuisé. Il a marché des kilomètres, il a guéri des malades, il a porté les souffrances des autres, il a enseigné pendant des heures. Son corps dit stop. Il s'endort littéralement au milieu du chaos. C'est une manière de dire « Je sais ce que c'est que d'être à bout de force. » Ensuite, Jésus a connu la solitude émotionnelle. Au désert, pendant 40 jours, Jésus est seul. Il affronte la faim, la soif, la tentation, le doute. Il n'a personne pour l'encourager, personne pour le soutenir. Comme Élie, il marche dans le désert. Comme Élie, il est physiquement affaibli. Comme Élie, il est tenté de renoncer. L'Épître aux Hébreux résume cela ainsi. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Ensuite, Jésus a connu l'angoisse profonde. À Gethsémané, Jésus dit une phrase qui devrait nous arrêter. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une exagération. C'est une confession d'une intensité émotionnelle extrême. Jésus est tellement accablé qu'il tombe la face contre terre. Il transpire des gouttes de sang. Il demande à ses amis de prier avec lui et eux, ils s'endorment. Il est seul, écrasé, accablé, au bord du désespoir. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. Cela signifie que la tristesse profonde n'est pas un signe d'absence de foi, elle peut être le lieu même où notre foi s'exprime le plus sincèrement. Alors Jésus comprend donc parfaitement nos découragements. Quand nous disons « je suis fatigué, je n'en peux plus, je me sens seul, je ne vois pas d'issue », Jésus ne répond pas « Tu devrais avoir plus de foi ». Il répond « Je suis là. Je suis passé par là. Je suis avec toi. » Il ne regarde pas notre souffrance de loin. Il l'a portée dans son propre corps, dans son propre cœur. L'Écriture nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. » Hébreux 4, 15. Autrement dit, Jésus n'est pas un coach spirituel qui nous crie du haut du ciel « Allez, fais un effort !» Il est celui qui s'assoit à côté de nous, dans la poussière du désert, comme l'ange s'est assis à côté d'Élie, sous le genêt. Il est celui qui dit « Reçois du repos, reçois du pain, reçois ma présence, je marche avec toi. » En conclusion, eh bien, rappelez que Jésus comprend, ce n'est pas une formule pieuse. C'est une vérité théologique fondamentale. Dieu s'est fait homme pour pouvoir compatir pleinement à nos faiblesses. Élie a reçu la visite d'un ange. Nous avons Jésus lui-même. Voilà. Pour revenir à Élie, ce qui va définitivement transformer radicalement sa vie et le remettre en course pour le service de Dieu, eh bien, c'est sa rencontre avec Dieu sur le mont Horeb. Sa vision de Dieu sera complètement renouvelée. Certaines de ses fausses croyances seront fondamentalement corrigées et sa compréhension de sa mission pour Dieu sera transformée. Et c'est cette expérience que nous devons souhaiter de tout notre cœur pour nos amis dépressifs. Et ce doit être le sujet de nos prières patientes et persévérantes. Et pour terminer, je voudrais vous donner le témoignage de mon père. En 2016, après avoir accompagné pendant des mois ma mère souffrant d'un cancer, jusqu'à ses derniers instants, en août 2016, mon père est tombé dans une grave dépression. Sa maladie avait même des aspects psychotiques, délirants. Il luttait contre des pensées suicidaires et il a fallu l'interner dans une clinique psychiatrique. Après sa sortie de l'hôpital, probablement prématurée, il a fallu l'interner à nouveau pour une période plus longue. Et là, son état a pu être stabilisé grâce aux médicaments, il a pu commencer une psychothérapie. À sa sortie, grâce aux médicaments, grâce à l'assistance quotidienne d'aides ménagères, d'infirmiers, à la visite d'une psychologue, il a pu se maintenir à la maison. Et pendant cette période, eh bien, nous allions le voir à Montpellier toutes les deux semaines. Mais ce qui nous a tristés, c'est que sur le plan spirituel, même s'il continuait à aller à l'église, il se sentait rejeté par Dieu. Il participait au culte, mais sans se sentir comme faisant partie de la communauté, enviant même ceux qui pouvaient sincèrement chanter à haute voix les louanges à Dieu. Mais en 2021, le jour de son anniversaire en novembre, mon père m'a téléphoné et annoncé que c'était le plus beau jour de sa vie. Il m'a raconté que, à la suite d'un entretien avec une amie chrétienne, il avait prié. Il avait demandé à Dieu qu'il lui donne un verset. Et il a reçu un verset, le psaume 13. En lisant ce psaume, il a réalisé que le début du psaume correspondait exactement à sa situation. Et il a acquis l'assurance que la fin du psaume correspondait aussi à sa situation, que Dieu lui donnait maintenant l'assurance de son salut et le remplissait de joie. Il a été instantanément délivré de la dépression. Depuis, il a complètement arrêté, en tout cas les médicaments liés directement à la dépression, en accord avec sa psychiatre, qui précédemment pensait qu'il serait sous antidépresseur jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, pour conclure, je voudrais vous lire ce psaume 13 comme une prière pour tous ceux qui, autour de nous, souffrent de dépression, afin qu'ils expérimentent cette rencontre cœur à cœur avec Dieu qui peut les guérir et les transformer. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand serai-je loin de toi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces. Sinon, je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, car tu m'as comblé de tes bienfaits. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te bénir parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, quand la vie semble nous obscurcir la vue, quand nous ne voyons plus ta présence, Seigneur, pourtant tu es là. Tu es là à nos côtés. Seigneur, toutes nos détresses, tu les connais, tous nos fardeaux, toutes nos tentations, Seigneur, tu es passé par là et tu as triomphé. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour ceux qui autour de nous se battent avec la dépression ou même simplement le découragement, le burn-out. Seigneur, nous voulons te prier pour qu'ils puissent expérimenter cette rencontre avec toi qui a transformé la vie de Élie, cette rencontre avec toi qui a transformer la vie de mon Père. Seigneur, nous savons que tu la désires pour chacun d'entre nous et en particulier pour nos amis qui sont au milieu de la dépression. Alors nous te supplions vraiment qu'ils puissent l'expérimenter. Nous te supplions aussi que tu nous qualifies pour être de bons amis qui savent les accompagner, les soutenir, les écouter, les encourager. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen.